Et après le terrain.
Chut.
Si j'étais une méthodologie, je serais le séquençage ADN.
Quand on collecte un spécimen vivant, on va couper un morceau de tissu, donc en général un morceau du pied de l'animal. Donc quand vous prenez un escargot de votre jardin, ce qui dépasse le plus de la coquille, c'est le pied de l'animal. Donc on va couper un petit morceau du pied, on va le conserver en alcool pour garder l'intégrité de l'ADN. Et une fois qu'on sera de retour au laboratoire, on va extraire l'ADN de ce petit morceau de tissu et on va séquencer l'ADN.
Mais que racontent les pieds des conidés ? Derrière le texte ADN se cache le travail de Nicolas Puylandre. Si j'étais un naturaliste du 21e siècle... je serais...
Alors, l'ADN, c'est quelque chose qui est finalement assez facile à lire.
Nicolas Puylandre.
C'est une chaîne de molécules de quatre types différents qu'on symbolise par quatre lettres, A, C, G, T. Et donc, lire cet enchaînement de lettres A, C, G, T... est finalement assez simple. Interpréter ce texte, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce texte-là, par exemple, dans notre texte à nous, l'ADN humain, il y a 3 milliards de lettres comme ça. Il se trouve que dans les organismes sur lesquels je travaille, ces néogastéropodes, il y a aussi entre 3 et 5 milliards de lettres.
Le nouveau monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui ? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste ? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce ? Pour y répondre, vite, embarquons. Avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Cinquième escale, la révolution ADN et les grandes découvertes du 21e siècle.
Quand on collecte quelque chose, parfois on se dit « Ah, cette forme-là, je ne l'ai jamais vue ». Mais il va falloir beaucoup de travail de retour au laboratoire, donc par exemple du travail pour séquencer l'ADN de cette bestiole-là, pour analyser plus finement la morphologie, un travail de bibliographie aussi, c'est-à-dire retourner à tout ce qui a été publié sur le sujet pour essayer de voir si cette espèce, finalement, elle n'a pas déjà été décrite. Et en fait, c'est souvent... plusieurs mois et même souvent plusieurs années plus tard, qu'on a le moment où on se dit « Ah, ok, finalement, c'était une nouvelle espèce ». Donc on n'a pas le moment sur le terrain où on se dit « Oh là là, c'est une nouvelle espèce », et ce moment un peu émouvant. En fait, cette émotion, elle est un peu diluée sur plusieurs années. Donc on a toujours ce plaisir de la découverte et ce plaisir d'avoir trouvé quelque chose de nouveau, mais ce plaisir, il est finalement tout au long du processus de découverte d'une nouvelle espèce qui commence sur le terrain, mais qui se poursuit au laboratoire pendant des années parfois.
Position. Jardin des plantes. Muséum national d'histoire naturelle. Jardin du roi. Intendance. Georges Louis Leclerc. Comte de Buffon.
Latitude.
2 degrés est.
Longitude.
48 degrés nord. Après l'aventure du terrain et de la collecte, le suspense des découvertes se joue au laboratoire. À une époque marquée par les découvertes d'écosystèmes peu explorés et la menace de notre biodiversité, c'est l'outil moléculaire qui révolutionne la recherche naturaliste aujourd'hui. Présent chez tous les organismes vivants, il est simple à utiliser et peu coûteux. Un outil inespéré pour compléter notre grande encyclopédie du vivant et ouvrir des pistes thérapeutiques prometteuses. Alors, qu'est-ce que l'ADN ? Comment peut-on lire son texte ? Et en quoi bouleverse-t-il la discipline ? Enfin, comment ouvre-t-il des pistes thérapeutiques extrêmement prometteuses et comment fait-il des cônes un réservoir infini de médicaments ? Pour le savoir, direction le laboratoire de Nicolas Puylandre au Muséum national d'histoire naturelle pour découvrir le séquençage ADN.
Alors, En fait, on continue d'utiliser des méthodes traditionnelles, c'est-à-dire que quand on ramène des coquilles au laboratoire, ben on va continuer de regarder cette coquille en elle-même, la forme, la couleur, l'ornementation, etc. Mais effectivement, maintenant, on couple ces approches-là, plus traditionnelles, morphologiques essentiellement, avec d'autres approches. Alors, chez les mollusques, on n'a pas un panel d'outils extrêmement développé comme on peut l'avoir chez d'autres groupes, où on va regarder le comportement, les sons, l'habitat, etc. Nous, on a assez peu de données sur tout ça, on en a un petit peu sur l'habitat. Et donc, l'outil qu'on va utiliser maintenant le plus souvent, c'est effectivement l'outil moléculaire. Donc, quand on a collecté un spécimen vivant sur le terrain, bien évidemment, si c'est une coquille vide, c'est plus dur de séquencer l'ADN, même si ça reste possible. Donc, quand on collecte un spécimen vivant, on va couper un morceau de tissu, donc en général un morceau du pied de l'animal. Donc, quand vous prenez un escargot de votre jardin, ce qui dépasse le plus de la coquille, c'est le pied de l'animal. Donc, on va couper un petit morceau du pied. On va le conserver en alcool pour garder l'intégrité de l'ADN. Et une fois qu'on sera de retour au laboratoire, on va extraire l'ADN de ce petit morceau de tissu et on va séquencer l'ADN. Voilà.
Et est-ce que l'ADN peut être présent dans l'air ? Par exemple, là, dans cette salle, est-ce qu'il y a des traces de notre ADN ?
Oui, oui, l'ADN est quelque chose d'extrêmement volatile. Alors, je ne vous dis pas que si vous ramassez un petit peu d'air, que vous filtrez et que vous séquencez, on arrivera à séquencer notre ADN à tous les deux, parce qu'il est très fragmenté, très dégradé et en très petite quantité. Mais l'ADN, il y en a un peu partout. Quand on perd des petits morceaux de peau, il peut y avoir de l'ADN dedans, etc. etc. Donc l'ADN est présent partout. Il y a effectivement maintenant des approches qu'on appelle des approches d'ADN environnemental. C'est-à-dire qu'au lieu de séquencer l'ADN contenu dans le tissu d'un animal en particulier, on va séquencer l'ADN qui se trouve dans son milieu. Donc l'ADN du sol, enfin l'ADN contenu dans un échantillon de sol, dans un échantillon d'eau. Donc on arrive à sortir de l'ADN de ça. Ce n'est pas des approches qu'on fait dans notre équipe. On continue de travailler sur des approches de taxonomie, c'est-à-dire qu'on a une approche très centrée sur le spécimen. Mais la caractérisation moléculaire des spécimens que l'on fait dans notre équipe est ensuite utilisée par des équipes qui font des approches environnementales et qui vont permettre de dire « Ah ok, cet ADN que j'ai trouvé dans l'eau, en fait, il correspond à l'ADN que mon collègue a trouvé dans telle espèce de mollusque, donc je peux dire que cet ADN que moi j'ai trouvé, c'est telle espèce de mollusque. » Voilà, donc ces approches-là sont complémentaires.
Et se recoupent.
Et se recoupent, oui.
Et concrètement, est-ce qu'on peut voir l'ADN comme un texte écrit avec des molécules ? Qu'est-ce que ça va raconter, par exemple, sur les cônes que vous découvrez
Alors, l'ADN, c'est quelque chose qui est finalement assez facile à lire. C'est une chaîne de molécules de quatre types différents, qu'on symbolise par quatre lettres, A, C, G, T. Et donc lire cet enchaînement de lettres A, C, G, T est finalement assez simple.
Et ça va raconter quoi voilà. Sur les espèces ?
Par contre, interpréter ce texte, c'est déjà beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, dans tout ce texte-là, par exemple, dans notre texte à nous, l'ADN humain, il y a 3 milliards de lettres comme ça. Il se trouve que dans les organismes sur lesquels je travaille, ces néogastéropodes, il y a aussi entre 3 et 5 milliards de lettres.
Autant ?
Il y en a autant. Alors, c'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes gènes, mais il y en a autant. La difficulté, c'est que sur tout ce texte-là, il y en a très peu qui a une signification, en tout cas, une signification que nous, on est capable d'interpréter. En particulier, on va chercher des gènes, c'est-à-dire des fragments d'ADN qui codent pour des protéines.
Et quels gènes en particulier ?
Ben moi, par exemple, je vais chercher des gènes qui codent pour les toxines. D'accord ? Donc je sais que ces gènes-là, ils ont une structure particulière. Ils ont un enchaînement de motifs, ce qu'on appelle des motifs assez particuliers. Donc je vais chercher spécifiquement ces structures-là dans le texte que j'ai lu, dans l'ADN qui a été lu. Mais quand on sait ce qu'on cherche, c'est déjà compliqué de le trouver. Quand on ne sait pas ce qu'on cherche et qu'on veut simplement essayer d'interpréter l'ensemble du texte, c'est énormément de travail. C'est un travail extrêmement long, extrêmement difficile... jamais fini. On continue de travailler sur le génome humain, même s'il a été séquencé il y a plus de 20-25 ans. On continue de travailler sur le génome humain, on continue d'affiner les annotations, les interprétations du texte qu'on a pu faire. Donc vous imaginez bien que sur les mollusques marins, pour lesquels le premier, en tout cas le groupe sur lequel je travaille, le premier génome digne de ce nom a été publié l'année dernière. On espère en produire plusieurs autres dans les prochaines années, mais on est au tout début. On est au tout début de l'interprétation du texte des génomes.
Et ce début d'histoire, il raconte quoi ?
Bah, ce début d'histoire, il raconte effectivement qu'on trouve plein de toxines dans le génome. Donc c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les génomes qu'on a pu observer jusqu'à présent.
Est-ce qu'il y a eu des grandes découvertes liées au séquençage ? On a vu que, par exemple, que l'ancêtre anglais était noir, ce qui est quand même une révolution. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des grandes découvertes liées au séquençage ?
Bien évidemment. C'est extraordinaire ce que le séquençage a permis de faire, toutes les découvertes que ça a permis de faire. Dans mon domaine, je citerai un exemple. Quand on a commencé à faire ce qu'on appelle les phylogénies moléculaires, c'est-à-dire retracer les relations de parenté entre les organismes, essayer de comprendre qui est plus proche de qui, jusqu'à présent, on le faisait avec des approches morphologiques. Le problème des approches morphologiques, c'est que parfois, elles peuvent prêter à confusion. Un exemple tout bête, qui bien évidemment ne porte pas vraiment à confusion, mais qui illustre bien, si je me base sur la présence d'ailes, je vais mettre les chauves-souris avec les oiseaux, alors qu'en fait, on sait très bien qu'ils ne vont pas ensemble. Donc le moléculaire a permis de détecter énormément de cas comme ça, où en fait, on s'est rendu compte que des organismes que l'on pensait très proches, en fait, ils sont très éloignés. Dans ce qu'on appelait avant les poissons, il y a certains poissons qui sont plus proches de l'homme que des autres poissons, en termes de relations de parenté. Donc voilà, ça a permis de remettre à plat énormément de choses. Alors de faire des découvertes qui n'ont pas forcément été extrêmement médiatisées et qui pour l'homme n'ont pas eu des conséquences directes, mais qui en tout cas moi, dans mon domaine de recherche, a eu des conséquences énormes. À chaque fois qu'on utilise l'information génétique pour retracer les relations de parenté au sein d'un groupe, on découvre des nouvelles choses. Et bien évidemment, je parlais des toxines. Le séquençage des toxines, c'est vraiment ce qui a permis tous les développements qui ont été faits par la suite, et notamment la production de médicaments. Ça n'aurait pas été possible sans le séquençage.
Oui, et puis j'imagine que c'est une toute petite porte qui a été ouverte, c'est-à-dire que c'est extrêmement prometteur pour le futur.
En fait, il y a quelques espèces, pas que chez les cônes, hein, il y a aussi chez les reptiles, quelques espèces qui ont fourni, rarement, mais qui ont quand même fourni des molécules qui sont utilisées comme médicaments. Donc ça a ouvert une porte effectivement extraordinaire. On a potentiellement des millions de toxines chez les mollusques marins. Et on a identifié pour certaines d'entre elles les cibles moléculaires qui sont impliquées dans des maladies effectivement comme Alzheimer, Parkinson, les cancers et même d'ailleurs dans le Covid, dans les symptômes du Covid. Donc il y a des recherches actuellement là-dessus. Le problème c'est que le chemin entre la découverte que telle toxine peut être impliquée dans la cascade moléculaire qui est en jeu dans telle ou telle maladie et la production d'un médicament qui va pouvoir permettre de soigner soit les symptômes, soit la cause de cette maladie, le chemin il est extrêmement long. Donc il y a actuellement une dizaine de toxines de cônes qui sont en phase de test. À ma connaissance, il y en a déjà 3 ou 4 qui ont été abandonnées, soit parce que des effets secondaires trop importants, soit finalement un effet sur l'homme trop négligeable, pas assez important pour être développé. Mais il y en a encore quelques-unes qui sont en phase de test et on en découvre des nouvelles très régulièrement.
Il y a des expérimentations par rapport au SARS ?
Oui,
au Covid. Alors,
ouais, c'est assez flou pour l'instant parce qu'il y a eu très peu d'articles, donc c'est plus des on-dit qu'on entend dire. Mais effectivement, certaines toxines de cône seraient impliquées, encore une fois, dans des cascades moléculaires qui sont liées à certains symptômes du Covid. Donc il y a des pistes là-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que la course aux médicaments anti-Covid va tellement vite que je ne sais pas si les toxines de cône auront le temps de trouver leur place là-dedans. Mais c'est pour montrer effectivement tout l'intérêt qu'ont les cônes en particulier, mais d'autres groupes aussi de mollusques marins dans ces recherches-là.
C'était Le Nouveau Monde sur les pistes du vivant. En compagnie du systématicien Nicolas Puylandre. 5e escale, la révolution ADN et les grandes découvertes du 21e siècle. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.